Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow. Chez WeNow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Rustam Roumaniouk, un chercheur en économie comportementale. Il s'est intéressé à comment faire en sorte que les gens agissent pour le bien commun. Se vacciner par exemple, aller voter ou encore changer de comportement sur le climat. Dans cet épisode, nous avons parlé de combien le regard des autres nous influence dans nos comportements, de la nécessité d'être progressif quand on veut faire des changements, de faire attention à notre intuition, ce qu'on pense n'est pas toujours vrai, et de notre capacité à aller chercher des causes compliquées pour expliquer le comportement des gens, alors que souvent la cause est très bête, la flemme, ou encore penser que les autres vont le faire à notre place. Mais on va aussi parler de cigarettes, de Moldavie, de coopération, de confiance. Vous êtes prêts à passer en mode action? Alors, en route! Bonjour Rustam!
Bonjour Alice!
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter?
Merci à toi pour l'invitation. Moi, je suis Rustam Roumaniouk, je suis professeur associé en économie comportementale à la Montpellier Business School et chercheur affilié au Centre d'économie de l'environnement de Montpellier.
Alors, tu es chercheur en économie comportementale, ça veut dire que tu t'intéresses à ce que font les gens, ce qui les motive, et notamment, tu es spécialiste dans les comportements prosociaux.
Alors, rapidement, sur l'économie comportementale, donc c'est un mix entre l'économie et la psycho. Donc moi, je travaille sur les comportements individuels, mais aussi les comportements sociaux. Quand on parle de comportements prosociaux, l'idée, c'est que c'est un comportement qui est coûteux individuellement, mais avec un bénéfice pour la société. Donc, si je vais aller voter, individuellement, ouais. Je sais que la probabilité que je change l'outcome du vote est proche de zéro. Et donc, d'un point de vue rationnel, en fait, je ne devrais pas aller voter. Mais d'un point de vue de la société, il faut que tout le monde aille voter pour maintenir un système de démocratie représentative. Donc voilà, donc c'est un comportement coûteux, mais bénéfique pour la société. Et puis il y a plein d'autres exemples avec des comportements pro-environnement, comme prendre le vélo ou prendre moins de temps quand on se douche ou voilà, manger moins de viande. Donc des choses comme ça en fait où il y a un coût individuel mais un bénéfice social.
Et un bénéfice social qu'on ne voit pas forcément tout de suite, en plus.
Exact. Très souvent, le bénéfice, il arrive un peu plus tard. Donc, il faut être patient. Et ça, en fait, c'est un facteur qui explique très souvent pourquoi est-ce que certaines personnes vont faire des sacrifices et d'autres ne le feront pas. Parce que certains individus, alors, on le sait sur la base de travaux en sciences comportementales, certains individus sont un peu plus patients. Et d'autres le sont un peu moins. Et puis, on le sait aussi en sciences comportementales qu'on peut aussi agir là-dessus, alors sur la patience, mais sur d'autres facteurs aussi, pour inciter les gens à se comporter de façon responsable socialement. Donc, je travaille sur la compréhension des facteurs, mais aussi sur le design de solutions. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place en fait, pour faire bouger les choses et pas juste s'arrêter à un constat?
Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces comportements?
Bonne question. Alors moi, je suis passionné par la coopération. Je viens d'un pays qui s'appelle la Moldavie. Et je pense que c'est le fait peut-être que j'ai vu quelques exemples de coopération un peu spontanée dans le village où j'ai grandi. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens font ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils participent à des événements collectifs, donnent de leur temps? Les gens se réunissaient, par exemple, pour aider les voisins à construire une maison ou à s'organiser pour le bétail. Alors, il n'y avait pas quelque chose d'institutionnalisé au niveau du village, mais c'était plutôt quelque chose de spontané. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de commencer une thèse, je me lance sur le sujet.
Tu me disais qu'il y a souvent, dans ces comportements prosociaux, en fait, plusieurs causes. Est-ce qu'il y a des causes qui pèsent plus que d'autres, quand même, dans tes travaux et tes recherches?
Alors, très souvent, ce qu'on observe, c'est que les gens sont influencés par ce que font les autres. Si on prend l'exemple de la vaccination ou du vote des jeunes, si on regarde un peu les rapports officiels qui ont été publiés, alors, il y a l'Assemblée nationale qui a fait un rapport de dizaines, voire de centaines de pages sur les causes de l'absentéisme. On retrouve très souvent en fait, des, des explications plutôt macro ou des facteurs qui sont très compliqués à faire changer. Mais en fait, les travaux scientifiques nous disent qu'il y a aussi des choses, des dimensions plutôt individuelles qui font que les gens vont faire X plutôt que Y, vont aller voter plutôt que rester à la maison ou faire vacciner plutôt que ne pas le faire. Beaucoup de travaux, en fait, suggèrent qu'on est très influencé par ce que font les autres. Mmh. Par ce que font les autres et par ce que pensent les autres aussi. Donc, il y a les normes sociales, ce qu'on appelle descriptives, donc ce que je vois les autres faire. Et puis, il y a une norme sociale aussi qu'on appelle injonctive, ce que je pense que les autres pensent du fait d'aller voter ou du fait d'aller se faire vacciner. Si je me dis en fait que les autres trouvent ça pas bien ou pas acceptable d'aller se faire vacciner, je ne le ferai pas. Donc, cet aspect social est très important. Il y a d'autres facteurs comme la patience, et en sciences comportementales, on a des outils qui nous permettent de mesurer ça aussi. Il y a les préférences pour la prise de risque aussi, qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes vont aller se faire vacciner et puis d'autres pas. Et puis aussi, la confiance que je peux avoir en fait dans les institutions. Donc, ça s'applique au vote, ça s'applique à la vaccination, ça s'applique dans le monde de l'entreprise. Si je ne fais pas confiance à la hiérarchie, à mon manager, on n'a pas observé beaucoup de coopération, beaucoup de comportements pro-sociaux.
Et c'est hyper intéressant, c'est que si on voulait changer, il faudrait presque changer d'environnement social, de copains, de famille.
Il faut avoir les bons exemples. On parle beaucoup en sciences comportementales de modèles. Donc, si on a les bons modèles, on va pouvoir changer de comportement. Donc, il faut chercher les bons modèles. Alors, ça ne veut pas forcément dire oublier ses amis ou sa famille. Ça veut simplement dire que même d'un point de vue individuel, il faut peut-être aller chercher d'autres exemples ou interagir aussi peut-être avec des individus qui font les choses un peu différemment. Alors, ça se fait peut-être pas de manière spontanée très souvent, mais en tout cas, dans les travaux scientifiques, quand on expose les gens à un environnement où, par exemple, on voit que les jeunes s'impliquent beaucoup plus dans la vie politique ou que les gens sont beaucoup plus favorables au vaccin contre la Covid, ils changent aussi de comportement. Ouais. Donc, il faut mettre en avant ce type d'information. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les autorités publiques montrent des informations négatives, mais plutôt jouent sur la mise en avant en fait, des informations positives. Donc, plutôt que dire qu'il y a que 60% des jeunes qui vont voter, il faut dire qu'il n'y en a que 40 qui ne le font pas, et il y a quand même 60 qui font l'effort. Donc, mettre en avant plutôt le parti positif.
Et hyper intéressant. Donc, en fait, plutôt montrer ce qui se passe pour donner envie de le faire.
Oui, je vais sur ce qu'on appelle le framing, la façon dont on présente une information. Ça a un impact assez important sur la façon dont on va se comporter. Donc, ça peut être, comme je disais avant, ça peut être soit exposer la personne à un nouvel environnement, qui est quand même un peu beaucoup de souche, soit jouer sur la façon dont on présente certaines informations. Et là, c'est moins coûteux, c'est faire un changement à la marge et qui peut quand même avoir un impact assez important sur le comportement. Alors, encore une fois, ça peut être, on peut parler de vaccination, de vote, on peut parler de mode de déplacement au sein de l'entreprise. Si on dit que, bon, en fait, il n'y a que 3 personnes sur 10 qui prennent le vélo pour faire le déplacement à domicile-travail, c'est quand même différent que de dire qu'il y a quand même des gens qui le font. Et mettre en avant les gens qui font ça, ça peut avoir un impact positif et ça peut, en fait, fournir aux gens un modèle à suivre. Donc, il faut plutôt mettre en avant ceux qui le font.
Hyper intéressant. J'avais d'ailleurs lu dans un de tes articles, je crois, que si tu tiens toi-même un discours sur l'importance d'un comportement, tu vas t'auto-convaincre. En tout cas, tu as plus de chances d'avoir le bon comportement derrière. Peut-être que tu peux le réexpliquer mieux que moi.
Exactement. Non, c'est exactement ça. En fait, il y a des travaux qui ont montré que donner un conseil, ça peut marcher mieux pour faire changer de comportement que recevoir un conseil. C'est-à-dire que supposons que tu prennes la voiture tous les jours pour venir au travail, et que moi, je le fais assez souvent aussi. Et puis un jour, je me décide de te donner des conseils sur combien est-ce que tu pourrais faire en fait, pour diminuer le nombre de fois où tu viens en voiture et puis utiliser plus le vélo. Ça ne changera pas simplement ton comportement, mais ça aura un impact et encore plus important sur mon comportement en moi. Parce que je vais me rendre compte qu'en fait, il y a des solutions. Je vais aussi essayer de réduire la différence entre ce que je dis et ce que je fais, donc la dissonance cognitive. Et il y a donc un effet d'auto-persuasion.
Et alors, peut-il utiliser la carotte ou le bâton ?
Oui, alors en psychologie et en économie, on fait cette distinction entre une motivation qui est intrinsèque, propre à l'individu, et puis une motivation qui est plutôt extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur. Donc ça peut être, alors, que ce soit la carotte ou le bâton, ce sont deux interventions qui sont externes, donc qui jouent sur plutôt la motivation extrinsèque. Mais en même temps, C'est une motivation extrinsèque, elles n'ont pas toutes le même effet. Ce que nous dit la science, c'est que très souvent, les gens vont réagir de façon plutôt positive quand on va leur proposer une récompense. Alors ça peut être une récompense qui est monétaire ou non monétaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va payer les gens pour faire quelque chose. Ça peut aussi être quelque chose de symbolique en fait. Alors que si on les punit, si jamais ils ne font pas la bonne action, qu'il s'agisse d'aller voter ou d'aller se faire vacciner ou de payer des impôts ou de rouler moins vite sur l'autoroute, si on utilise le bâton, en fait, il y a un risque quand même assez important que les gens n'acceptent pas d'intervention, donc qu'on ne connaît pas l'effet espéré. Il y a aussi des gens qui disent que récompenser pour avoir eu un bon comportement, ça peut aussi avoir un effet d'éviction, une motivation intrinsèque, morale. Mais en même temps, quand on regarde ce que la science nous dit, c'est pas complètement vrai. Il y a eu tout un débat quand il y a eu cette discussion sur qu'il faut payer les gens pour qu'ils aillent se faire vacciner. Et donc, il y a eu pas mal d'articles dans la presse aussi qui disaient, mais il faut surtout pas faire ça. Quelques années après, on a des travaux qui montrent que payer les gens pour aller se faire vacciner, ça marche plutôt bien. Même débat pour le don de sang. Parce que intuitivement, en fait, on se dit, mais il faut pas faire ça parce que les gens le font spontanément. Donc, il faut pas les payer. Parce que sinon, ils seront plus motivés par plutôt une motivation intrinsèque. En fait, les travaux scientifiques montrent que ça marche plutôt bien. Donc, parfois, on peut avoir une intuition que quelque chose ne va pas marcher, mais quand on met en place cette politique et qu'on la teste, en fait, de façon scientifique rigoureuse, on voit que les effets sont plutôt positifs. Donc, récompenser, ça marche plutôt bien. Et donc, aujourd'hui, en fait, dans le cadre de mes projets, j'essaie aussi d'avoir une partie récompense. Alors, cette partie récompense, ça aide aussi. Encore une fois, elle peut être symbolique, en fait. Elle ne doit pas être forcément monétaire, mais elle aide pour que l'effet dure dans le temps. S'il n'y a pas une récompense, si l'individu ne voit pas que ce qu'il fait a un effet bénéfique pour la société ou pour lui-même et qu'on ne lui rappelle pas ça de façon régulière, en fait, on risque d'avoir un effet qui est peut-être... On met quelque chose en place, on a un changement de comportement, mais... Un mois après, on revient à ce qu'on avait avant. Donc là, dans le cadre d'un projet assez récent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné aux individus des informations sur le bon comportement à adopter. Et en plus de ça, on leur a montré qu'en fait, adopter ce comportement, ça a des conséquences positives pour d'autres gens. Donc on a essayé de leur rappeler ça de façon régulière.
En fait, c'est parce que tu ne vois pas forcément le bénéfice que tu as besoin quand même de cette rétroaction. Et finalement, tu l'as créé de manière un peu artificielle, mais parce qu'on a besoin de cette rétroaction pour agir, c'est ça?
Oui, exactement. Et il y a des travaux qui montrent que très souvent, on fait des choses parce qu'on a besoin de se sentir bien, en fait. C'est ce qu'on appelle une motivation de warm glow. Donc, je vais aider quelqu'un ou je vais les voter, non pas parce que les conséquences pour moi comptent, l'impact va compter pour moi, mais parce que j'ai besoin de me sentir bien. Et donc, si on ne vient pas avec cette info assez rapidement, et que la personne ne réalise pas en fait qu'en faisant quelque chose de bien, elle se fait du bien à elle-même, on risque là, de pas inciter des gens à changer de comportement. Donc, c'est important de faire. Et même pour les gens pour qui en fait, l'impact est assez important, venir aussi avec une information, ça leur permet aussi de voir que ce qu'ils font, ça sert à quelque chose.
Oui, en fait, la notion d'utilité ou de sentiment, ça a servi à quelque chose, même pour moi, est vraiment important, quoi.
Oui, on le voit très, très bien dans les différents travaux qui ont été publiés. Donc, c'est important de mettre l'accent là-dessus, à montrer aux gens que en fait, ce qu'ils ont fait, ça peut leur faire du bien à eux et ça peut faire du bien à la société.
D'accord. Tu dis que la norme sociale joue énormément. Comment on fait pour renverser une norme sociale?
Ça, c'est une question qui est super intéressante et super importante parce que clairement, on ne peut pas avoir de changement comportemental si en fait, on ne voit pas les autres changer. Alors, on n'est pas incité à changer soi-même. Les autres ne nous voient pas changer de comportement. Donc voilà, on tourne comme ça. Et en fait, c'est très, très compliqué de changer cette norme sociale. Mais en même temps, pas impossible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des travaux qui montrent que c'est important de faire la distinction entre une norme sociale et une norme personnelle. Alors, j'explique. Personnellement, je peux apprécier de prendre le vélo pour venir travailler, mais en même temps, quand je regarde un peu ce que font tous mes collègues, ils viennent en voiture. Ils ont des voitures qui sont plutôt belles, puissantes, Et donc, je me sens un peu mal de venir à vélo. Et donc, je vais aller chercher à venir plutôt en voiture pour aussi montrer que je fais un peu comme eux. Donc, comment est-ce qu'on change ça? Il y a des travaux qui montrent que parfois, on vit dans ce qu'on appelle un monde d'ignorance multiple. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, on peut avoir, donc, disons qu'on a 100 salariés. Ils viennent tous en voiture super puissante au travail. Et donc, on peut avoir l'impression qu'en fait, tous ces gens-là, ils préfèrent prendre la voiture plutôt que transport en commun ou à vélo. Mais dire ça, ce ne serait pas complètement vrai. Parce que peut-être qu'individuellement, ils ont des préférences plutôt pour les transports en commun ou le vélo, mais que chacun se dit que, en fait, étant donné que les autres ne changent pas et qu'ils viennent en voiture, ils préfèrent peut-être devenir en voiture. Et donc, ils vivent dans un monde où il y a une ignorance multiple. Chacun ignore en fait les préférences individuelles des autres. Et tant qu'il n'y a pas une sorte d'autorité externe de manager qui vient un peu dire à ces personnes, mais écoutez, en fait, il se trouve que chacun d'entre vous préfère plutôt le transport en commun ou le vélo venir en voiture. S'il n'y a pas ce type d'intervention-là, on n'aura jamais un changement de comportement. Donc, il faut que ces préférences individuelles soient mesurées d'une façon à ce que, en fait, on capte vraiment les préférences individuelles et pas la norme sociale. Une fois qu'on a cette information-là, on peut la diffuser au sein du groupe et donc informer les gens que, en fait, tout le monde ici préfère plutôt prendre le vélo. Et donc, si on a fait ça, on pourra assez facilement motiver les gens à changer de comportement parce qu'ils vont dire, mais ouf, en fait, on est plutôt à la vélo.
Après, alors, notamment sur les transports, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas testé autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas posé la question, est-ce que ça serait mieux ou pas mieux, les transports en commun, parce qu'en fait, ils n'ont jamais imaginé. Enfin, si je reprends mon cas particulier, je suis venue en vélo parce que quelqu'un m'a montré que c'était possible, alors que je pensais vraiment que c'était impossible de faire 12 km aller, 12 km retour. J'aurais même jamais eu l'idée, tu vois. Donc, il y a effectivement ces préférences individuelles, mais je savais même pas que ma préférence individuelle allait vers ça, puisque je l'avais pas testé. Donc, comment tu fais aussi pour faire, entre guillemets, donc, en gros, tu dis, il y a besoin d'une autorité quand même extérieure pour faire bouger.
Alors, ce que tu dis, c'est super intéressant, parce que c'est un des leviers les plus puissants pour changer de comportement, c'est juste observer quelqu'un le faire, ou si quelqu'un, en fait, t'encourage à le faire, je sais pas, te propose un jour de faire le déplacement domicile-travail à vélo. Oui, ça revient un peu à dire qu'il faut qu'il y ait un coup de pouce un peu de l'extérieur. Alors, de l'extérieur, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'État qui doit intervenir, qui doit mettre en place des taxes ou des subventions, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit le manager, les amis.
Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on peut tous jouer ce rôle, presque, avec les autres.
Exactement, oui, il faut qu'il y ait un petit coup de pouce de l'extérieur, mais ça peut venir d'un cercle proche, des collègues au travail, de trouver des modèles à suivre un peu partout, en fait.
Sur la cigarette, on ne pensait pas que c'était possible d'arrêter la cigarette dans les avions, dans les trains, dans les bureaux, dans les restaurants. Aujourd'hui, on a même presque l'impression que... Mais d'où on pensait qu'on pouvait fumer? C'est horrible de fumer dans un avion, machin. Donc là, c'est l'intervention de l'État. Finalement, c'est une forme de courage du législateur de dire ben stop, et ça a réussi à changer tous les comportements. Donc on est quand même très adaptable et très malléable.
Oui, exactement. Et ça, c'est un exemple qui est super intéressant parce que je pense que c'est en lien avec cette histoire d'ignorance multiple aussi que j'ai mentionné un peu avant. Parce que si on voit qu'on est un peu contraint de le faire, c'est un peu plus facile de dire que même si individuellement, en fait, je préfère plutôt ne pas fumer dans l'avion, mais je vois plein de gens le faire, puis ça a l'air plutôt cool, donc je vais le faire aussi. Je veux aussi donner cette image cool de moi-même. Et maintenant, en fait, si je sais qu'il y a cette contrainte-là, je vais plus facilement abandonner la cigarette, je verrai aussi les autres le faire. Donc, dans ce cas-là, la politique mise en place, elle a plutôt un effet expressif. C'est-à-dire que la contrainte, la sanction, elle peut être vraiment symbolique. Et concrètement, en fait, quand on regarde l'exemple de la cigarette ou le fait qu'à partir d'un certain moment, il fallait payer pour un sac en plastique, ce type de politique est plutôt expressive, en fait, exprime une certaine norme plutôt que punitive. Et ça marche plutôt bien. Mettre en place quelque chose qui permet un peu de révéler ce qui est bon pour la société, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Mais ce sont aussi des sujets où il y a quand même déjà une sensibilité assez forte, où les gens sont aussi quand même prêts à basculer.
Oui, ça n'aurait pas pu être fait avant, c'est ça que tu veux dire.
Oui, parce que c'est sur des sujets où il y a un blocage assez important, c'est un peu plus compliqué de faire ce changement avec des politiques expressives plutôt symboliques.
Je me demandais, comment on fait pour que toutes ces connaissances sur le changement de comportement, ben, on les applique concrètement?
Excellente question, et c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps. Et je pense que l'échange entre le monde des décideurs publics et le monde académique ne se fait pas comme il devrait se faire, et c'est dommage. Il y a beaucoup de résultats en sciences comportementales qui seraient très intéressants pour les décideurs publics, pour les entreprises aussi. Il faudrait certainement travailler pour qu'il y ait un peu plus d'échanges, pour que les chercheurs parlent un petit peu plus aux décideurs publics et privés, et pour que les décideurs publics privés aussi regardent un petit peu plus attentivement ce que font les chercheurs. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus d'échanges entre ces différents mondes. J'ai passé un peu de temps et j'ai vu qu'il y a quand même des chercheurs qui travaillent assez souvent avec des acteurs privés, publics, plus souvent qu'en France.
C'est dû à quoi?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Peut-être l'aspect culturel qui joue beaucoup. En France, j'ai l'impression qu'il y a moins cette culture du dialogue entre les chercheurs et puis les décideurs publics ou privés. Et puis aussi, côté recherche, en fait, même entre collègues, on voit que le travail avec le public ou le privé n'est pas souvent valorisé. Alors que aux États-Unis, si tu montes un projet avec un partenaire privé ou public, c'est bien vu parce que tu travailles sur des questions très appliquées, donc il y a une utilité pour la société, donc c'est bien vu. Alors, en France, c'est moins valorisé, je ne sais pas pourquoi.
C'est clair, c'est clair. En tant que chercheur, que penses-tu du vote sur le SUV à Paris et notamment du faible taux de participation?
C'est une question qui est en rapport avec un de mes projets sur le vote des jeunes. Je me suis penché sur cette question avant l'élection présidentielle de 2022. L'idée, c'était de voir un peu comment est-ce qu'on peut inciter les jeunes à aller voter, parce que le problème, clairement, il est au niveau de la représentativité. Donc, s'ils ne vont pas voter, leurs intérêts ne seront pas représentés. Et là, on parle de la même chose, en fait. Si les gens ne vont pas voter, leurs intérêts ne seront pas représentés. Et en même temps, l'autre problème, c'est que le résultat des votes, en fait, il n'est pas vraiment légitime, parce qu'il y a très, très peu de gens qui se sont déplacés. Donc, de manière générale, le signal que les gens en tirent, je ne sais pas si c'est un bon signal, s'ils disent, mais en fait, on voit avec ce vote que socialement, c'est quelque chose d'inacceptable de faire X ou Y. Et l'utilité d'un vote, c'est ça, en fait, c'est de voir un peu quelles sont les préférences des individus qui forment une collectivité. Là, clairement, on a un problème de représentativité et du signal qui est envoyé.
Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie ou pas de participer à ce débat collectif, finalement?
Très souvent, c'est pas par manque d'intérêt pour le sujet. C'est parce que les gens se disent que les autres iront voter. Et donc, pourquoi aller voter alors que je peux très bien rester dimanche chez moi, prendre un café tranquillement dans mon jardin? Et parfois, en fait, juste une petite différence entre l'intention que je peux avoir et puis le comportement. J'ai peut-être l'intention d'aller voter, mais bon, je me dis qu'il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc je vais peut-être faire autre chose. Ou l'oubli. Très souvent, en fait, on cherche des explications qui sont compliquées, que je ne sais pas, que c'est le manque de confiance dans les institutions, que c'est un manque d'intérêt par rapport au sujet évoqué. Alors que très souvent, pas du tout. Les explications sont plutôt assez bêtes, en fait, et juste humaine. Et donc, il faut mettre en place des actions pour rappeler aux gens qu'il y a un vote, les inciter à le faire, aussi en utilisant peut-être une info positive sur l'intention des autres à aller voter. Donc, montrer que tu ne seras pas le seul à déplacer. Parce que je disais avant qu'une des raisons, ça peut être que je m'attends à ce que les autres le fassent. Donc, je vais rester chez moi. Parce que mon vote ne changera rien. Mais ça peut aussi être l'inverse. Je m'attends à ce que les autres ne le fassent pas. Et donc, je me dis, mais je n'ai pas envie d'être le seul à me déplacer, à aller voter, et donc de passer un peu pour le mec qui n'a rien à faire le temps dimanche qu'aller voter. Donc, il faut, dans un premier temps, avoir une compréhension un peu plus fine de quels sont les facteurs. Et puis ensuite, essayer de travailler sur des solutions pour inciter les gens à le faire. Parce que si les autorités publiques se disent juste, on va organiser un vote, parce qu'on pense que c'est un sujet important, c'est pas suffisant. On peut pas faire ça. Il faut aussi mobiliser les gens pour qu'ils aillent voter.
Ça m'amène à la notion de courage, parce que tu parles de responsabilité. Comment on aide et on encourage ce courage?
Parfois, je pense que, alors, encore une fois, basé sur des travaux en sciences comportementales, le changement, il vaut mieux ne pas le brusquer. Si on prend l'exemple d'un manager qui décide plutôt de pousser pour enlever complètement la viande du menu de l'entreprise, je pense qu'avant de faire ça, il faudrait passer par différentes phases Et il faudrait plutôt mettre en avant les plats végétariens, donc éduquer en quelque sorte le public avant d'arriver à une décision quand même assez radicale de complètement enlever du choix de l'individu une option. Parce qu'en général, on n'aime pas quand quelque chose nous est imposé comme ça, quand on n'a plus le choix de faire quelque chose, même si avant on ne le faisait pas. Disons que je ne mange pas de viande et du jour au lendemain, je vois que la viande était carrément enlevé du menu. Il y a des chances que, même si je ne prenais pas la viande avant, que je serais content.
Est-ce qu'il y a eu des expériences ou des expérimentations qui t'ont vraiment marqué ?
Chaque expérience que je mène me marque parce qu'à chaque fois, je m'attends à des résultats différents et je découvre des nouvelles choses. L'humain me surprend à chaque fois. Et en fait, ça me montre à chaque fois que mais basé sur l'intuition, c'est peut-être pas quelque chose à faire. Parfois, ça marche. On peut parfois avoir la bonne intuition et donc avoir le résultat qui confirme un peu ce qu'on espérait avoir. Mais très souvent, c'est pas le cas. Pour moi, c'est important à chaque fois d'aller sur le terrain, d'expérimenter, d'observer un peu comment les gens se comportent. À chaque fois, en fait, quand je fais ça, quand je vais sur le terrain, quand je vois un peu comment les gens se comportent et qu'on a une phase d'expérimentation, on teste une solution qu'on avait en tête et qu'on pensait quand même prometteuse, alors je suis surpris à chaque fois par ce que j'en vois.
Écoute, merci Rustam, j'ai coutume de finir ce podcast avec trois petites questions. Est-ce que ça te donne un côté positif sur la nature humaine ?
Oui, exactement, oui. En fait, je trouve que sur la base des résultats de mes travaux, mais aussi des travaux de plein d'autres collègues qui travaillent sur la coopération, on voit clairement que la règle, c'est plutôt qu'on a de la coopération, on a de la confiance, même quand les gens ne se connaissent pas.
Et par défaut, il y a confiance, en fait.
Oui, très très souvent, pas tout le temps, mais très souvent quand même. Donc, c'est quand même extraordinaire quand on voit ça et quand on voit que les gens ne sont pas complètement égoïstes, sont confiants, et bien assez souvent, coopèrent avec les autres. Donc là, c'est plutôt positif.
C'est chouette. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, que tu aimerais partager, qui te sert aujourd'hui, que tu aimerais partager avec les auditeurs ?
Juste continuer d'être curieux, je pense que ça, c'est important. J'essaie de l'être dans mes projets, donc peut-être la curiosité, oui.
Et dernière question, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais entendre au micro de ce podcast ?
J'aimerais bien entendre en fait, d'autres chercheurs, plein d'autres chercheurs, pour te raconter un peu leurs projets, et comme ça, en fait, qu'il y ait un peu plus de partage des connaissances.
Eh bien, carrément. Merci, Rustam.
Merci à toi.
Merci Rustam, c'était absolument passionnant. Je retiens de cet épisode 6 idées fortes. La première, c'est que si on veut faciliter un nouveau comportement, la façon dont on présente l'information va jouer un rôle important. Il vaut mieux montrer que des personnes font déjà le comportement attendu pour fournir un modèle à suivre. La deuxième, c'est de faire attention à son intuition, elle nous trompe souvent. La troisième, c'est que quand les personnes donnent des conseils à une autre personne, elles ont plus de chances de se les appliquer à elles-mêmes. La quatrième, c'est que proposer des récompenses est très efficace pour changer le comportement, y compris dans des actes de dons généreux, comme le don de sang. Et la récompense, qui n'est pas forcément monétaire, aide à ce que le comportement dure dans le temps. La cinquième, c'est que très souvent, on fait des choses parce qu'on veut se sentir bien. Et donc, pour inciter à agir, il est important de montrer à la personne tout le bien qu'elle fait à elle-même, à son entourage ou à la société. Et enfin, un des leviers les plus puissants pour changer de comportement, c'est juste d'observer quelqu'un le faire. Ou si quelqu'un nous encourage à tester. Et peut-être qu'on peut tous être cette personne-là. Vous avez appris des choses ? N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à dans 2 semaines.